Prenons les textes bibliques dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 21. Évangile selon Matthieu, chapitre 21. Nous allons lire deux textes. Évangile selon Matthieu, chapitre 21, versets 9 à 14. Et puis le deuxième texte, c'est dans Jean 3, 16. Évangile selon Matthieu, chapitre 21, versets 9 à 14. J'ai lu ici dans la version Louis II, 1910. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait, « Qui est celui-ci ? » La foule répondait, « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus entrant dans les temples de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Amen. Jean 3, 16, ça dit ceci. Dit-on que c'est le verset de l'Écodime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. En fait, mes frères et sœurs, la semaine pascale ici, aujourd'hui nous sommes les dimanches des rameaux, nous avons comme thème principal la marche avec les seigneurs, mon roi. La marche avec les seigneurs, mon roi. Nous allons, au cours de toute la semaine, décortiquer cette thématique. Alors, avant d'aller plus loin, peut-être je vais parler un peu de deux concepts que j'ai définis d'une manière vraiment, d'une manière très courte. Deux concepts, le concept roi et le concept seigneur, étant dans notre thématique. Roi, c'est un nom masculin, ça signifie chef souverain de certains états qui se nomment royaume. Accédant, ces chefs-là accèdent au pouvoir par la voie héréditaire. C'est-à-dire, on pouvait dire que le roi devra contrôler une contrée limitée dans l'espace. Mais Seigneur, un nom masculin, maître dans les systèmes de relations féodales. Donc là, il y a seigneur et vassaux ou seigneur vassal de l'autre côté. Donc les seigneurs étaient les propriétaires absolus de certains objets matériels, de certaines concessions des terres et des personnes qui sont des esclaves sous lui. Là, c'est juste la définition. Mais ici, nous venons de lire dans les livres de l'Évangile selon Matthieu. Et nous voulons parler d'abord de la royauté de Christ et puis de sa seigneurie. Avant de parler de sa royauté, on va continuer à marteler que l'Évangile selon Matthieu, c'est un évangile qui a pour but de présenter Jésus comme roi des Juifs. Et dans cette présentation, vous allez remarquer que déjà au premier chapitre, quand Matthieu présente sa généalogie de Jésus, il tient compte de la lignée royale, parce qu'on ne peut pas être roi si on n'est pas de la lignée royale. Et il va marteler en disant, le roi David agendera-t-elle pour faire la suite jusqu'à arriver à Jésus-Christ. Et dans les évangiles, c'est Matthieu seul, comme lui son but s'est présenté, Jésus qui est roi des Juifs, lui seul a parlé de la disons, de ce conflit politique entre Jésus, le nouveau roi qui est né à Bethléem, et le roi qui était en place, Hérode. Parce que Hérode voulait chercher le nouveau roi pour l'éliminer, parce qu'on ne veut pas lâcher le pouvoir. Et au chapitre 4 de ce même livre, on trouve que Matthieu présente un conflit politique spirituel. Le roi de la lumière, Jésus, en contraste avec le roi de ténèbres, Satan, qui vient les tenter. On a toujours souvent dit la tentation de Jésus, mais là, il y a vraiment un tiraillement entre le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière, et nous voyons clairement que le royaume de la lumière a vaincu. Et ici, au chapitre 21, il s'agit maintenant de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Il entre d'une manière triomphale. Comme roi des Juifs, il présente d'abord sa souveraineté en envoyant ses disciples pour prendre l'ânesse et l'âne. Et les disciples sont allés et prendre l'ânesse et l'âne, et il n'y avait pas de discussion, parce que Jésus est souverain, roi de Juifs qui devrait venir. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur l'âne, l'ânesse, sur le chemin, et vraiment c'était des rameaux gauche-droite en train de crier « Hosanna, Hosanna ». Les grands rois entrent maintenant dans Jérusalem. Toute la ville était tellement, vraiment, la ville était émue. Et les Juifs étaient contents. Et à cette époque, il y avait à peu près 9 partis politico-religieux qui étaient en place à l'époque de Jésus. Parmi ces partis politico-religieux, il y avait des pharisiens, des esséniens, des sadducéens, des zélotes. Et d'ailleurs, parmi les zélotes, il y avait beaucoup qui étaient à côté de Jésus, parce que les zélotes étaient les zélés de Dieu. Ils étaient là pour défendre Dieu. S'il s'agit de boxer quelqu'un, ils pouvaient le faire pour défendre la cause de Dieu. Ils étaient là même s'il faut macheter quelqu'un. Ce verbe n'existait pas en français, mais je l'ai créé. Même s'il faut macheter quelqu'un pour Dieu, il faut le faire. Et d'ailleurs, l'un des disciples de Jésus, l'apôtre Pierre, lui, il était parmi les zélotes. C'est pourquoi quand on venait arrêter Jésus, il ne pouvait pas tarder de couper l'oreille, parce qu'il était zélé. Et les zélotes étaient rassemblés en train de dire: maintenant ici, nous amenons notre roi jusque chez Hérode pour faire un coup d'état. Si c'est tué Hérode aujourd'hui, Hérode sera mort. Et ils sont là, à côté de Jésus. Hosanna, le grand roi! Il vient nous libérer de l'emprise des Romains et de l'emprise de ces types Hérode ici. Alors maintenant, toute la troupe commence à se diriger vers chez Hérode, mais Jésus, lui, se dirige vers le temple, et c'est là où il les a déçus. Mais ces rois, nous l'amenons au pouvoir. Il laisse le pouvoir pour aller au temple, parce qu'il est d'abord roi spirituel. Il veut rendre saint le temple de Dieu. Et souvenez-vous, dans 1 Corinthiens 3, chapitre 3, verset 16, ça dit que nous sommes les temples de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Nos corps sont les temples de Dieu. Et Christ est venu d'abord pour la libération spirituelle. Et les zélotes étaient déçus. Voilà quelqu'un que nous attendions, ce qu'il nous a fait. Parce qu'ils n'ont pas compris, les Juifs attendent un roi qui va taper Hérode, qui va écraser César, alors que Dieu, lui, sa planification est tout autre. C'est comme ça que vous pouvez être là. Vous attendez un roi Jésus qui va vous donner les mariages de véhicules que vous commenciez à rouler, hein, des billets d'avion, alors que lui, il vise d'abord votre spirituel. Donc, il faut comprendre notre roi d'abord spirituellement pour aller prendre maintenant les autres aspects parce qu'il est vrai, il est roi pour tous les aspects. En deuxième lieu, je vais parler maintenant de Jésus-Christ comme Seigneur. Dans ce verset de Jean 3,16, c'est un verset qu'on a toujours dit, oh, verset de l'Écodime. Mais la réalité est que, mes frères, ce verset, on l'apprenait à un docteur de la loi, un docteur en droit. Son contexte n'a rien à faire avec l'Écodime. Mais ce qui est important, il faut comprendre que ce verset, en son sein, il y a la matière de la nouvelle naissance. Les premiers pas de la foi et la base fondamentale de la foi, c'est dans Jean 3,16. Quelqu'un qui évolue sans comprendre Jean 3,16, il va vaille que vaille. Et quelqu'un qui n'a jamais bien compris ça, il peut être même dans l'église sans jamais être né de nouveau. Quelqu'un qui n'a pas compris l'évangile de Jean 3,16, il peut être dans l'église sans jamais même être une grossesse dans la foi. Alors que le verset nous amène jusqu'à la nouvelle naissance. C'est à Nicodème dont on parlait de ce verset ici. Et nous allons subdiviser ça dans trois parties dans ces quelques 20 minutes qui nous restent. La Bible dit « Car Dieu a tant tellement aimé les mondes. » Ça, c'est la première partie. « Car Dieu a tant aimé les mondes. » Le verbe « aimer » est précédé d'un adverbe de quantité « tant ». C'est-à-dire, cet adverbe de quantité enlève la manière simpliste de comprendre l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est tellement grand. L'amour de Dieu a une profondeur insondable, une largeur incommensurable. Et d'ailleurs, il y a le verset, disons, ce verset dans la version française courante dit « Car Dieu a tellement aimé les mondes ». On pouvait remplacer par des adverbes de quantité là-bas « Car Dieu a extrêmement aimé les mondes ». Car Dieu a gigantesquement aimé les mondes. Et l'amour de Dieu est tellement grand que la Bible dit « Dieu n'a pas seulement l'amour, mais il est lui-même amour » selon 1 Jean chapitre 4, verset 8. Donc, l'amour là, c'est la personnalité de Dieu, c'est son être, c'est son attribut. Deuxième partie, qu'il a donné son Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique. C'est-à-dire, l'amour fait appel toujours au don donné. Il ne faut jamais dire que tu aimes quelqu'un et tu ne lui donnes rien. Ça n'existe pas ça et ça ne représente rien. Quand tu aimes, tu donnes. Qu'il a donné son Fils unique. Dieu n'a pas deux fils. Il a un seul Fils, Jésus. Et ces fils-là représentent l'essentiel de ce que Dieu a pour racheter le monde. Tout ce que nous voyons ici, c'est pour Dieu. Les arbres, les fleuves, les lacs, il n'a pas donné les lacs, il n'a pas donné le fleuve, il n'a pas donné les arbres parce que c'est des sons superflus. Mais l'essentiel que Dieu avait et a, c'est son Fils unique. Imaginez, beaucoup parmi vous sont étudiants. Vous avez l'unique stylo et vous faites la dictée très vite là. Et le voisin dit, donne-moi ton unique stylo. Tu vas lui dire qu'il est démoniaque et vous risquerez de dire, au nom de Jésus, démon, arrête-toi. Parce que c'est l'unique stylo et ça coûte moins cher d'ailleurs les stylos. Imaginez les fils uniques de Dieu. Même parmi les parents qui sont ici, ils ont 4 fils, 7 fils. Mais si vous lui demandez un seul fils en sacrifice, il ne vous donnera pas son fils. Mais Dieu a donné son Fils unique. il n'y a pas de plus grand que Dieu a comme Jésus. Donner Jésus pour le salut de l'humanité, c'est laisser les ciels chaotiques. Le Père est resté dans un ciel chaotique. Il n'y a pas le Fils parce qu'il a accepté de donner son Fils unique. Et c'est là que je dis Dieu est fou d'amour parce qu'il a donné son Fils qui est de plus grande valeur que la terre et l'univers en échange des petits humains. Or, s'il laissait ces humains, même si ces humains mouraient dans le péché, même si la terre s'est fracassée en mille morceaux, Dieu reste Dieu. C'est comme si quelqu'un avait ma dette de 10 dollars. Je lui dis, ah, moi j'aime mes 10 dollars là, laissez-moi te donner 100 dollars en échange de mes 10 dollars. Est-ce qu'on ne peut pas m'appeler fou? C'est ce qu'exactement Dieu a fait. Jésus est plus valeureux que le monde. Il donne Jésus en échange d'un petit monde rempli de pécheurs. Si moi j'étais Dieu, je ne vous donne pas Jésus. Vous mourrez dans vos péchés. Je reste avec mon Fils parce que rien ne nous influence. Mais Dieu, dans son amour, il a fait un sacrifice si grand. Il faut vraiment accepter cet amour de Dieu qui nous conduit logiquement à la Seigneurie de Jésus. Alors, mes frères et sœurs, Dieu a donné son Fils unique pour nous racheter, pour nous enlever du péché. Alors, la troisième partie, là où je vais encore insister sur la Seigneurie de Jésus, la Bible dit, « Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Je vais insister sur le verbe « croire », mais je commence par « afin que quiconque croit en lui ». Quiconque là, ça veut dire quoi? N'importe qui, si seulement vous êtes un homme, vous êtes une femme, élancé, moins élancé, gros, mince, blanc, noir, éduqué, mal éduqué. Si vous acceptez l'offre de l'amour de Dieu, vous croyez en Christ, vous serez sauvés, malgré les degrés de vos dégâts. Comme je disais au deuxième culte là, même si vous êtes Codeco, Codeco ce sont des groupes armés de chez nous là-bas, Codeco signifie coopérative pour le développement du Congo. Mais cette coopérative, son travail, c'est nous couper les têtes. Même si vous avez coupé les têtes des gens, quand vous acceptez l'offre de l'amour de Dieu, vous intégrez la famille de Dieu. Il y a des gens peut-être qui ont vécu une vie d'expertise en prostitution. Même si vous êtes prostitué, de quel degré? Lorsque vous acceptez l'offre, vous serez sauvé. Même si vous avez été un grand voleur du renom, même si vous aviez quel nombre de péchés, l'offre de Christ est là. Quiconque croit en lui reçoit le salut. Alors croire signifie quoi? Croire. Oh, j'ai cru au Seigneur. Les gens aiment ce verbe « croire » ici, alors que c'est un verbe qui implique une base fondamentale de la marche avec Dieu. Croire d'une manière simple, c'est accepter Jésus comme, donc, disons d'abord, ouvrir la porte de son cœur, de sa vie, accueillir Jésus dedans pour qu'il joue deux rôles importants. Le premier rôle, Seigneur. Il est Seigneur parce que le Seigneur, disons, le premier rôle, je pourrais dire sauveur. Commençons par sauveur. Il est sauveur. Un sauveur, c'est quelqu'un qui vous arrache du danger potentiel, danger des morts. Nous étions dans un danger des morts par rapport aux griffes du diable, à la gueule du diable, par rapport au danger du péché. Et il nous a fallu un sauveur parce que aucun pécheur ne peut se sauver de lui-même du diable. Il a toujours besoin de la main de Dieu qui est ce sauveur-là. Et lorsque Jésus nous arrache de l'emprise du diable, il nous fait sortir de la domination du péché, il nous met à l'écart. La mise à l'écart, c'est la sainteté. Et là, à la mise à l'écart, il joue son deuxième rôle, le plus important pour nous, la Seigneurie. Il conduit tout. C'est lui qui guide. Lui, il est Seigneur, nous, nous sommes esclaves. Et à l'époque où on rédigeait le Nouveau Testament, franchement, un esclave équivalait moins qu'un objet de la maison. L'esclave n'a pas de mot à dire devant son Seigneur. Ce n'est qu'obéir. Quand le Seigneur dit Amen, Amen, il n'y a pas de discussion. Et nous, nous sommes esclaves de Jésus. C'est un esclavage positif parce que sa finalité, c'est nous amener, nous, au bien de la vie éternelle. Et donc, nous devons lui obéir en tout. C'est ça la Seigneurie de Jésus. Et mes frères et sœurs, beaucoup ont crié à Jésus Sauveur, mais ils ne croient pas à Jésus Seigneur. Quand Jésus veut conduire leur vie, ils refusent. Mais ils sont toujours là pour que Jésus les sauve. Et ça se constate même dans des prières. Vous sentez la prière d'immaturité. Jésus, donne-moi ça, les diplômes. Après ça, donne-moi une femme, la moto, la maison. Ils ont oublié la Seigneurie de Jésus. Jésus doit régner. Et lorsque Jésus ne règne pas, là, votre foi a des doutes. Nous doutons que vous êtes réellement sauvés. Parce que le salut en Jésus-Christ implique la Seigneurie et le règne de Christ dans notre vie. Lorsque cela ne s'observe pas, nous sommes des aventuriers. Et nous passons du temps inutilement dans des églises. Christ doit régner. C'est comme ça que Jésus a dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera accordé par-dessus. » Avoir une femme, comme parmi nous beaucoup sont célibataires, ils croient que le mariage là, c'est le top, c'est comme le ciel. Mais ce n'est pas ça. Oh, avoir l'enfant, oh, avoir l'argent, beaucoup là sont en train de rêver l'argent. Au lieu que Christ règne dans leur vie, ils sont derrière les choses. Non, Christ, fais-moi ceci, donne-moi ceci. Alors, là, Christ devient comme un garçon de course. Va me faire ça, va me faire ça, va me faire ça. Alors, où est la Seigneurie de Jésus? Oh, le bas-ventre fait mal, Jésus vient guérir. Quand la personne est guérie, elle rentre dans le désordre, le péché. Les gens mêlent Jésus sauveur avec les péchés. Mais dès que Jésus est Seigneur, il y a directement absence du péché. Les péchés disparaissent, vous devenez saint. C'est comme dans des prières ici, on observe beaucoup de choses. Quelqu'un qui, une femme est en train de prier. Toute personne qui va regarder mon mari, je jette sur lui le feu au nom de Jésus. Hé! Hey. Toute personne, que ce soit un homme, a le feu, une femme, feu, un chauffeur de bus qui regarde son mari, feu. Bon, tu jettes des feux comme ça sur les gens. Est-ce que tu comprends la Seigneurie de Jésus? Mon Dieu, je suis ta fille. Donne-moi un garçon, un beau garçon d'1,80 m. Qu'il ait sa parcelle, qu'il ait déjà construit sa maison avec notre RAV 4, d'aller avec ça au marché. Mais, quand Christ regarde la demoiselle qui prie comme ça, et là couché avec des milliers de gens, et Jésus dit, où est ma Seigneurie? Elle veut avoir un mari, pourtant elle-même, elle s'en est cherchée 10, 20, 35, 42, 114, 220. Où est le règne de Jésus? Quand Jésus règne réellement, en tout cas, et tout ce que vous demandez dans la prière, c'est superflu là, vous ne devriez pas le demander. Quand Christ règne, vous vous occupez de son royaume. Son royaume, c'est quoi? La sainteté, l'obéissance, l'amour de la parole de Dieu, les activités spirituelles. Vous êtes dans sa ligne. Tout ça, vous n'allez pas demander. Imaginez une maman qui vient acheter 1 kilo de viande et le boucher dit, bon, je te donne 1 kilo que tu as acheté, maintenant je te mets les 100 grammes de surplus. Quand la maman rentre pour la maison, les chègues ou le voleur de la riz vole les 100 grammes. Est-ce que ça a de l'impact? Elle va toujours bien manger dans sa famille. Mais si le voleur prenait maintenant les 1 kilo pour lui laisser 100 grammes, ça devient catastrophique. Et on lui donne les surplus parce qu'elle a eu l'essentiel. Quelle femme arrivera ici auprès d'un boucher? Donne-moi le matabis. Pour rien comme ça, pour rien comme ça. Tu n'as pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le royaume de Dieu. Et laisser ces choses s'augmenter de soi. Moi, je ne peux pas dans ma prière. Oh mon Dieu, écoutez, donne-moi la nourriture. Si a pas kuko batu mu maombi bana lomba masambaza et patie mungu tusaidie na mikeke, vous comprenez? Est-ce que vous comprenez d'abord la seigneurie de Jésus? Alors que d'autres sont là, ils sont en train de demander l'essentiel. Mon Dieu, fais-moi grâce de vaincre la chair. La chair là que vous portez, si vous ne combattez pas contre la chair, vous aurez honte, je vous dis. La chair là, elle est impolie. Quand nous sommes tous ici, chaque chair se fait comme sainte. Mais si on vous disait de voir certains gens ici en secret quand ils sont dans leur chambre, vous allez regretter comment la chair les manipule. Il faut vaincre la chair, c'est ça chercher le royaume de Dieu. Il faut pointer la sainteté, vivre la vie de sainteté. Mes frères et sœurs, chaque fois beaucoup de gens dans l'église aiment dire « Oh Dieu miséricordieux, plein d'amour, vous voyez, nous sommes faibles. » Ne proclamez pas la faiblesse, vous êtes appelés à la perfection. Oui, Dieu est plein d'amour, miséricordieux, mais quand ce papa se fâche, il fait des crimes que personne n'a jamais fait au monde. Il a tué 175 000 Assyriens en un seul jour. Nimouchasi qui a vite accouru à 175 militaires. Wap! En un seul jour, il l'a fait. Et quand il l'est fait, il n'y a pas de magistrat pour aller l'accuser. Que Christ règne et ça donnera honneur à notre foi. Au fait, nous avons vu comment Jésus est roi des Juifs, qui entre avec des clameurs de gloire en Jérusalem. Et en deuxième lieu, nous voyons l'amour du Père qui nous amène nécessairement à la seigneurie de Christ. Père, le Père a aimé le monde pour que nous arrivions à accepter le Fils comme Seigneur. Et puis le Fils s'est humilié pour nous sauver. Imaginez du trône céleste jusqu'au tombeau. Même ces créatures sont en train de cracher sur lui. Si c'était moi, Jésus, j'aurais échoué cette mission. J'appelle les anges, je vous fais des gîtes célestes, vous mourrez et puis allez-vous rester. Mais il a poursuivi sa mission dans une humilité très profonde pour nous arracher de l'emprise du diable, du péché, pour nous mettre à part. il ne faut pas blaguer avec cette œuvre de Christ. Et là, il est vraiment Seigneur. Il a travaillé pour cette Seigneurie. Alors, est-ce que Christ est vraiment votre roi? Est-ce qu'il est votre Seigneur? En tant qu'Église, ce sont des questions auxquelles aussi on va approfondir aussi dans les séminaires. Ne manquez pas les séminaires, vous. Vous êtes tellement saints ici. Mais je risquerais de vous manquer au séminaire. En tant qu'Église, comment pouvons-nous approfondir le règne de Christ comme roi dans notre paroisse, dans notre église locale? Ce sont des questions auxquelles nous allons répondre au séminaire. En tant que chrétien, quels sont les autres aspects de la Seigneurie de Jésus que je dois comprendre et développer pour bien marcher avec lui comme Seigneur? Quelle est ma part de responsabilité, enfin, dans la marche avec le Seigneur Jésus? Ce sont des questions auxquelles on doit répondre. Mais je voudrais prier avec quelques personnes qui veulent que Jésus règne dans leur vie, qui veulent que Jésus puisse prendre la place maintenant du Seigneur, que ce soit lui qui puisse conduire votre vie, au lieu que ce soit vous-même qui conduisez votre vie. Mettons-nous debout pour la prière. Je vais prier pour nous afin que Christ soit réellement notre Seigneur, qu'il règne et que nous puissions le servir avec sainteté et que nous soyons dignes d'être appelés ses serviteurs, ses servantes. Seigneur Jésus, je prie pour tes enfants. Nous tous, nous avons besoin que ton règne s'approfondisse dans notre vie. Nous avons besoin de te connaître davantage et d'expérimenter ta soif, d'expérimenter ton amour sans fin. Père, d'expérimenter ta grâce, cette grâce qui nous conduit dans la sainteté. Bénis tes enfants, bénis nos frères et sœurs. Agis avec puissance, ô mon Dieu. Fais-nous grâce, afin que nous puissions accepter ton règne, que tu règnes réellement, que tu sois Seigneur et Roi. Touche toutes les sœurs, tous les frères, toute cette jeunesse, afin que nous puissions te glorifier en voyant cette jeunesse percer vers de l'avant, en voyant cette jeunesse te glorifier dans la sainteté. Merci Père, parce que tu feras au-delà de nos prières. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que Dieu bénisse sa parole, amen.